On continue avec le numéro du mois de mai du monde diplomatique et on va parler de EADS et Airbus avec François Ruffin. C'est un autre François Ruffin. On en a un qui de temps en temps s'exprime dans la basse si j'y suis, nous fait quelques reportages et il est aussi collaborateur du monde diplomatique dans ce numéro du mois de mai. Est-ce que Monsieur Ruffin peut être pédagogique et nous expliquer les choses clairement?
Il y a une interprétation qui s'est répandue durant la campagne électorale de ce qui se passait autour de Airbus, EADS et le Power 8. Cette interprétation, c'était de dire qu'il y avait des méchants États, des vilains nationalismes et que c'était en gros les différends entre la France et l'Allemagne. Le nez des ministres à l'intérieur de EADS qui avaient ruiné, qui avaient contribué à ruiner Airbus. Et bon, donc ça c'était le discours dominant lancé par les dirigeants de EADS, repris par différents ministres, ensuite relancé à travers différents médias. Or, il me semble que là-dedans, il y a un mot, simplement un nom, qui n'a pas été prononcé quasiment à travers toute cette affaire, c'est simplement le nom de Lagardère. C'est-à-dire que autant on mettait en cause les actionnaires publics, autant les actionnaires privés étaient, eux, complètement oubliés. Or, il y a une responsabilité de ces actionnaires privés, notamment de Lagardère, de Jean-Luc Lagardère, puis d'Arnaud Lagardère, qui est absolument considérable dans cette affaire. Il faut se souvenir qu'en 99, quand est privatisé Aérospatial, quand le gouvernement Lionel Jospin confie la direction d'Aérospatial au privé, et en l'occurrence au groupe Lagardère, à Matra, eh bien, à ce moment-là, Airbus est en plein essor, fonctionne très bien, a conquis 35% des parts de marché, est considéré comme une mine d'or. Bref, il n'y a aucun problème à Airbus. L'année d'après, il y a une fusion qui est faite entre Airbus, dirigé toujours par Lagardère, et Daimler Chrysler en Allemagne. Cette fois, c'est à nouveau Lagardère qui va représenter les actionnaires français. On lui confie les pleins pouvoirs. Il y a une interdiction de gestion. L'État français n'a pas le droit de gérer. Donc voilà, on donne les pleins pouvoirs, on confie les pleins pouvoirs au privé. Et 7 ans plus tard, on assiste à une débâcle. Et là, ce qui est quand même assez surprenant, c'est qu'alors qu'on a confié les pleins pouvoirs au privé, on vient dire 7 ans plus tard que c'est de la faute de l'État, que c'est de la faute des nationalismes français et allemands si Airbus se serait cassé la figure. Or, si on regarde, si on accepte de regarder vraiment ce qui s'est passé, il y a une mise en cause du privé qui doit être faite de manière assez radicale. Sur 2 points. D'abord, ce qu'a été la gestion du privé, et ensuite sur la financiarisation de Airbus. Le premier point sur ce qu'a été la gestion du privé, c'est que dès l'arrivée de Lagardère au pouvoir du groupe EADS, dès en plus le décès de Jean-Luc Lagardère, il va y avoir une guerre qui va se livrer. Mais cette guerre, elle va pas se livrer entre les acteurs publics et les acteurs privés, elle va pas se livrer entre l'Allemagne et la France, elle va se livrer entre ce qu'on appelle les Lagardère Boys, c'est-à-dire les hommes de Lagardère. Ce sont notamment Philippe Camus et Noël Forjard qui vont se déchirer l'un l'autre. Noël Forjard faisant la tournée de différents cabinets ministériels et ainsi de suite pour essayer d'arracher la direction de EADS à Philippe Camus. Et là, il y a quelque chose qui se produit, c'est qu'on délaisse complètement à ce moment-là le projet industriel simplement au profit d'une guerre des chefs. Mais le projet industriel est délaissé à un tel point que quand il va y avoir une revente des actions, Noël Forjard revend ses stock options, Lagardère revend la moitié de ses actions dans EADS au moment où les actions sont au point fort, et que réplique à ce moment-là à Arnaud Lagardère. Arnaud Lagardère répond « J'ai le choix de passer pour quelqu'un de malhonnête ou d'incompétent qui ne sait pas ce qui se passe dans ses usines, j'assume cette deuxième version. » C'est-à-dire que Arnaud Lagardère, là, à qui on a confié le fleuron de l'industrie aéronautique française, vient avouer en public son incompétence. Et il vient dire « Moi, je ne regarde pas ce qui se passe dans mes usines ». C'est-à-dire que là, le projet industriel a été complètement abandonné. Et il est abandonné au profit d'une guerre des chefs, au profit aussi, et ça c'est le deuxième point, au profit du profit. C'est-à-dire que dès le lancement de EADS, même avant, dès la privatisation d'aérospatiale, quelle va être la première réflexion faite par le dirigeant de l'époque, qui est Philippe Camus? Il déclare dans Le Monde que son objectif n'est pas de construire des nouveaux avions. Son objectif n'est pas de construire des avions moins pollueurs, par exemple. Son objectif, ça va être de faire passer la marge d'exploitation de 4% à 8% en 5 ans. Au changement de statut correspond une réorientation des priorités. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de dégager de la rentabilité pour les actionnaires. Il faut lire. Moi, je me suis amusé à lire les différents rapports internes fournis par Lagardère, qui se trouvent simplement sur le site de EADS. Quand on va les lire, on voit très bien quelle est l'orientation à ce moment-là, la financiarisation de EADS. Dans le rapport annuel, par exemple, de 2005. Alors, 2005, c'est une année où tout va vraiment merveilleusement bien pour Airbus. On se souvient du décollage juste avant le référendum européen, puisque c'était le symbole de cette Europe qui décollait, le symbole du oui. Et là, on vient de nous dire en cette année 2005 que la rentabilité de ADS a atteint de nouveaux sommets. Pour une troisième année consécutive, une augmentation de dividendes est proposée, une année record en termes de livraison, de commandes et de rentabilité, donc c'est vraiment une excellente année. Or, en cette même année, quelle est la stratégie prévue par les dirigeants de ADS? C'est ce qu'ils appellent l'internationalisation. Ils disent, voilà, notre problème, c'est que nous, on a 75% de nos sous-traitants qui sont en Europe, on a 95% de nos salariés qui sont en Europe, ça peut plus continuer. Donc, il faut qu'on délocalise. Il faut qu'on délocalise en Inde, en Chine, en Russie. Et ils ouvrent des bureaux dans ces pays-là, dans ces pays à bas coût de main-d'œuvre, pour pouvoir avoir de la main-d'œuvre, des sous-traitants qui sont à payer moins cher. Et là, ce qu'on voit se développer en fin de compte avec Power8, alors certes, il y a eu des problèmes de câblage, mais faut pas exagérer les problèmes autour de ADS et Airbus. On les exagère volontiers parce que ça permet à Louis Gallois d'avoir un prétexte de venir dire, regardez la catastrophe industrielle qui se profile, alors que, grosso modo, il y a un carnet de commandes qui est rempli pour 5 ans, il n'y a pas de déficits qui sont absolument colossaux, cette année EADS a même encore enregistré un bénéfice, il y a des dividendes, on le sait, qui continuent d'être versés tranquillement aux actionnaires, mais pendant ce temps-là, on vient dire, voilà, il y a une catastrophe, comme ça permet de justifier des licenciements en Europe pour qu'on vienne produire 10 000 licenciements en Europe, non, c'est-à-dire, il faut se souvenir qu'au départ, ce qu'était EADS, enfin ce qu'était Airbus en tout cas, c'était un projet industriel, c'était le phare de la construction européenne, et c'était quelque chose où pendant 25 ans, il n'y a pas eu de profit chez Airbus. On n'a pas entendu le mot de profit pendant 25 ans, et ça n'a dérangé personne. Là, simplement parce que le bénéfice est moins important que prévu, on procède à un plan de licenciement massif qui en fait est prévu depuis longtemps, mais on utilise des problèmes autour de la 380 comme un prétexte pour licencier des personnes ici et les faire embaucher ailleurs. Alors ça doit déboucher sur une réflexion à mon avis autour de ce qui est, quel est le projet industriel qu'on a. Le projet industriel, il faut savoir que politique industrielle, on le lit sur le site du ministère de l'Industrie français, le terme politique industrielle est un terme qui était banni du débat communautaire européen. Voilà. On n'avait pas le droit de prononcer ce mot-là au niveau européen. C'est quand même assez extraordinaire de dire que Airbus est né de cette volonté industrielle, notamment entre la France et l'Allemagne, avec deux industries publiques, MBB en Allemagne, Aérospatiale en France, qui ont mené ça, le projet Airbus pendant des années. Et aujourd'hui, on assiste là vraiment avec Airbus, c'est la traduction de l'absence de politique industrielle. C'est-à-dire que tant qu'on délocalise dans la chaussure, tant qu'on délocalise dans le textile, dans la métallurgie, dans l'automobile, on s'est plus ou moins habitué à cette délocalisation-là. On s'est résigné, mais à chaque fois, ce qui nous était rappelé, ce qu'on nous répliquait, c'est « Mais regardez, nous on a Airbus, nous on a l'aéronautique. » Or aujourd'hui, on doit franchir un nouveau seuil d'acceptation et on doit accepter aujourd'hui que même dans l'industrie de pointe, même dans une industrie de souveraineté, eh bien, on délocalise, non pas pour sauver cette industrie, mais pour sauver, là encore on pourrait reprendre les termes du directeur financier de EADS, donc Hans-Peter Ring, qui déclare « Il faut tout faire pour que la rentabilité ne risque pas d'être en décalage sensible par rapport aux standards de l'industrie et aux attentes légitimes des actionnaires. » Donc là, on voit bien quel est le projet mené autour de l'ADS. Le dernier point qu'il faudrait soulever, c'est quand même que on a jeté beaucoup de pierres à Noël Forgeard. Il a été vraiment lapidé, cet homme-là. Il s'en est pris plein la gamelle.
C'est bien François Ruffin qui défend.
Plein les poches aussi, quand même. Hein.
Oui, mais il
c'est
a
bien, c'est bien. Il faut aussi soutenir les riches de temps en temps. C'est bien.
Faut être aux côtés des
opprimés. Faut être aux côtés des opprimés, et donc je serai aux côtés de Noël Forgeard. Pourquoi? Noël Forgeard a certes bénéficié de 8,5 millions d'un c'est pas grand chose. 8,5 millions. Il a aussi revendu ses stock options au bon moment, hein, juste avant que les actions ADS ne plonge. Bon, il en a acheté pour ses enfants, mais peut-être tout ça parce qu'il faut bien se préparer une petite retraite, il a expliqué. Ouais. Et c'est important de se préparer à la retraite.
Surtout s'il n'y a plus de bras succession, c'est formidable.
Voilà. Et on a vu tous les médias venir dénoncer l'argent fou, ses parachutes en or, c'est absolument infect. Or, derrière Noël Forgeard,
il y avait pire.
Il y avait pire. Mais c'était vraiment l'arbre qui cachait la forêt. Et la forêt, c'est quoi? Ben, la forêt, c'était le groupe Lagardère. Lagardère, lui, a vendu ses actions quasiment au même moment que Noël Forgeard. Ça représentait là, non pas un petit pourcentage, mais 7,5% du capital de ADS. Et il s'en est tiré avec 890 millions de plus-value. C'est pas 8 millions, c'est 890 millions. C'est 100 fois plus. Et sur ce 100 fois plus, on n'a rien dit. Alors, pourquoi les politiques n'ont rien dit? Sans doute parce que déjà du côté gauche, parce que Lionel Jospin et Dominique Strauss-Kahn qui ont publié une tribune dans Le Monde où le nom d'Arnaud Lagardère ni celui de Jean-Louis Lagardère ne sont prononcés, parce que leur sort était lié. En un sens, c'est eux qui avaient choisi de confier Aérospatial au groupe Lagardère. Et deuxième point, Arnaud Lagardère vient dire qu'il considère Nicolas Sarkozy comme un ami ou comme un frère.
Ils ont dîné ensemble au Fouquet's.
En plus, j'ignore. Moi, j'ignore un peu toute la vie parisienne, vous savez, comme...
Mais bien sûr, on est un provincial.
Voilà, on est près de Méholt, on est plus près de Méholt que du Fouquet's. Méholt, où il y a un site Airbus. Et donc...
François Riffra, c'est la France profonde. Donc,
là, il y a eu un oubli... Nicolas Sarkozy a juste parlé d'un problème d'actionnariat, on n'en saura pas plus, quoi. Et évidemment, il ne faut pas compter sur les médias aux mains du groupe Lagardère, en l'occurrence Europe 1, une partie du Monde, et puis également Paris Match et ainsi de suite, pour venir soulever ce problème. Jean-Marie Colombani a fait des tartines.
Vous croyez que c'est une influence qui a un rapport entre les deux?
Je n'oserais pas l'imaginer.
En tout cas, quand Arnaud Lagardère dit qu'il préfère passer pour incompétent à être jugé malhonnête, s'il a gagné 800 millions d'euros dans cette affaire, il n'a pas été tellement incompétent.